Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Marion Lacasse et Jacques Hippolyti. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte urbaniste et à la tête de votre agence Vis-à-vis Land.
C'est ça.
Vous êtes aussi gagnant Europe en 16 sur le site de la Porte du Hainaut avec le projet Short Stories. Bien sûr, nous allons évoquer ce projet Europe, mais comme il est d'usage dans Comme d'Archi, je vais d'abord interroger vos désirs respectifs d'architecture et d'urbanisme, vos relations intimes avec les disciplines. On commence par le début. Quel est votre parcours? Enfin, quels sont vos parcours respectifs? Vos jeunesses respectives? Où s'est ancrée vos envies d'architecture et d'urbanisme? Quelles ont été vos études?
Alors, je vais commencer. Donc, Marion Lacasse. Ben, moi, j'ai commencé mon parcours universitaire par des études en sciences humaines. Donc, j'ai fait une licence de lettres, puis une licence de philosophie. Et c'est par ce chemin détourné que je suis arrivée à l'architecture. Et donc, c'est à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais que j'ai fait mes études, où on s'est rencontrés avec Jacques et où on a fait notre master au sein du département théorie-histoire-projet, où nous avons développé, enfin, je vais parler plutôt en mon nom, en tout cas un intérêt pour la mise en récit du projet d'architecture et notamment la place de la fiction dans le processus de conception, en travaillant avec des enseignants comme Luca Merlini, Giannone Hanner et Gilles Delalex, et en ayant toujours cet ancrage théorique et cet intérêt pour les enjeux disciplinaires et historiques.
Intéressant de travailler sur l'imaginaire à l'heure à laquelle c'est un peu mis en arrière.
C'est ça. Donc peut-être qu'on était très anachronique, mais au final, ça nous permet de regarder, je pense, vers le futur.
Voilà, parce qu'il faut remplir le vide. Jacques, et vous?
Alors moi, donc Jacques Hippolyti, moi je fais partie de cette espèce d'architecte, fils d'architecte des deux parents. Donc j'ai grandi... En suivant des routes, en photographiant des ronds-points, il y avait plus de photographies de ronds-points que de familles dans ma maison. Donc on peut dire que je baigne dedans. Et donc, en fait, c'est un peu sans trop savoir quoi faire que j'ai fait de l'architecture, peut-être un peu naturellement. Et où je suis arrivé à Paris-Malaquais, où j'ai rencontré Marion. Moi, à la suite des études d'architecture, j'ai fait une spécialisation en urbanisme à l'école de Marne-la-Vallée. Au DSA d'architecture urbaniste, et donc il y a une formation qui donne un grand panorama de la pensée urbaine un peu du moment. Et aujourd'hui, j'enseigne à cette école d'architecture de la ville et des territoires dans le département d'urbanisme.
D'accord. Et pour vous, c'était évident de prendre la voix de vos parents? Il n'y a pas eu de questionnement?
Il y a eu plein de questionnements. ça a été plutôt compliqué pour mes... Enfin, c'était très compliqué pour mes parents. Ce n'était pas une agence qui... Enfin, ils travaillaient en tant que salariés. Et donc, ils m'ont un peu mis en garde sur la trajectoire d'architecte. Tout en disant que c'était bien évidemment très très passionnant. Mais au début, c'était pas forcément... Il y avait beaucoup de réserves sur l'idée de faire déjà comme eux. C'est plutôt... Ils étaient un peu dérangés de ça.
Alors, comment avez-vous commencé, débuté votre activité en tant que professionnelle?
Ça s'est finalement fait assez rapidement après les études. Comme disait Jacques, lui, il a fait un post-diplôme. Moi, je me suis engagée dans la vie professionnelle en travaillant pour une maîtrise d'ouvrage à la sortie de mes études. Et puis, assez peu de temps après ce plongeon dans la vie professionnelle, on a participé avec d'autres anciens étudiants de Malaquais et amis à l'édition 13 d'Europan, pour lequel on a été lauréat sur le site de Bondy. Et puis, parallèlement à chacune de nos activités respectives, on a voulu aussi conserver cette joie et cette effervescence de l'école. Donc, on avait monté un collectif avec lequel on faisait quelques actions pirates dans l'espace public. On a participé à des festivals d'art et d'installation. Et puis... On a créé un salon de lecture. Enfin, on essayait de continuer cette effervescence de l'école. Et finalement, le fait d'être lauréat à Europan nous a donné, je pense, le courage d'imaginer qu'on pouvait peut-être en faire une pratique plus professionnelle. Donc, on a créé un collectif sous le nom de Studio Diez, avec lequel, à la suite d'Europan, on a participé au sein d'équipes à des études urbaines, participé à des nombreux concours. Donc voilà, ça s'est engagé un peu comme ça. C'était un groupe mobile, à géographie variable, en fonction des projets sur lesquels on travaillait. Je te laisse poursuivre.
Mais je pense qu'on voulait... pendant les études, on s'est rencontré un petit groupe d'architectes avec qui on s'entendait bien. On n'avait pas forcément travaillé ensemble, mais on était très attentifs à ce que chacun nous faisait. Et en fait, à la sortie des études, on a un peu voulu poursuivre cette énergie, suivre ce fil. Et donc, on a commencé un peu à travailler ensemble, à proposer des installations, à s'incruster dans les nuits blanches, sur les parcours.
Vous étiez dans la même mouvance.
Et l'année d'après où on s'est créé, on a participé à Europan, un peu toujours dans cette dynamique, on l'a gagné. Et d'un coup, on s'est dit, on croyait que le téléphone allait sonner, que ça y est, c'était parti. Ça a été un peu plus compliqué que ça, mais ça nous a donné une énergie assez forte. Ça a été un Europan, on a beaucoup questionné la représentation. Donc ça a aussi ancré une démarche. Aujourd'hui, on est très porté sur la façon de raconter un projet, un processus de projet, de raconter un territoire. Et donc on a développé des formes de rendus, de jeux, des rendus à jouer, des rendus en BD, des rendus en nouvelles, comme pour ce dernier Europan. Donc on est... Enfin voilà, c'est très constitutif, cette énergie. Et par la suite, on a continué un peu dans des schémas parallèles. Mais aujourd'hui, on poursuit un peu ce travail au sein de l'agence vis-à-vis.
Voilà, donc vous êtes tous les deux associés.
Oui.
Et fondateurs de cette agence.
C'est ça.
Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? J'imagine que oui, puisque vous étiez tout de suite indépendant, c'est ça?
Ouais.
La continuité se fait.
Oui, la continuité se fait. Après, je pense qu'on n'imaginait pas, et heureusement, la réalité de la profession quand on était encore à l'école. Et c'est peut-être cette naïveté qui nous a aussi donné cette envie et ce courage de se convaincre qu'on avait quelque chose à dire et qu'on avait des propositions et qu'il fallait les soutenir, les défendre. je pense que ce qui reste de ce que, en tout cas, moi, j'imaginais à la sortie de l'école, c'est de veiller à garder une dimension raisonnable pour pouvoir continuer à mener des projets peut-être plus expérimentaux, de se donner cette latitude de se tromper, ou en tout cas de ne pas chercher à avoir forcément raison ou la bonne réponse. Cette dimension de recherche qu'on a développée pendant nos études et qu'on souhaitait poursuivre en sortant, ben en tout cas, j'aime à penser qu'on arrive encore à la garder.
En tout cas, on n'avait pas de... Je pense d'idées de trajectoire très très fort, de se dire il faut faire ça 5 ans après les études, j'aimerais être là. On est plutôt des architectes bricoleurs.
Agiles.
Ouais, enfin, on suit acrobate. Un peu les indices qui se présentent et puis on essaye un peu d'en faire quelque chose. Donc je pense qu'on est très content de où on en est. Mais...
Il n'y avait pas de plan de carrière.
Ouais.
Voilà, maintenant.
Et on essaye de garder ce truc très expérimental de l'école. On essaye de tenir aussi en participant à des concours. Là, on a participé à un concours à Los Angeles où on a fait une compétition de typologie d'architecture. Donc, on faisait fusionner au fur et à mesure de l'avancement du projet des typologies. Donc, on sait que cette démarche n'est pas très... est très dans l'imaginaire est très narrative et pas forcément vocation à remporter la compétition, mais pour nous c'est une façon de aussi questionner qu'est-ce que c'est que le type, questionner comment on cohabite, puisque là c'était une question de cohabitation. Donc on avait pris 4 habitants qu'on faisait se rencontrer comme dans une compétition sportive. Donc voilà, ça c'est quelque chose où on essaye de garder cette possibilité dans notre travail, même si la vie professionnelle constitue une grande part du temps passé, hein, faut pas non plus faire un récit idyllique, mais et on oui. essaye de garder cette envie qui est très proche de ce qu'on fait à l'école. Donc aussi, à l'école, je pense qu'on pensait continuer un peu cette idée de faire des projets un peu fous, et on essaye de le faire.
Bon, bah, par rapport à tout ce sérieux ambiant, c'est bien d'ailleurs, on peut aller voir quelques images de vos projets. Et c'est très beau, enfin, c'est très bien fait, en effet. On attend les textes. J'imagine que ça va venir.
Oui.
Bon. Alors, est-ce que vous avez maintenant une histoire de projet à raconter? Bien sûr, on va en venir à l'Europe en 16, sur lequel on va faire peut-être une focale, mais vous avez gagné le 13 avant. Est-ce qu'il y a eu des étapes intermédiaires? Comment, au fil de votre parcours, s'est construite l'histoire de vos projets?
Le projet un petit peu fondateur, effectivement, c'est 7 Europe en 13, donc à Bondy, dont le site était une zone d'activité et qui posait finalement, je pense, une sorte de question impossible de ce territoire bloqué parce que la propriété de toutes les enseignes qui avaient soit leur grande boîte à chaussures, soit leur parking, soit leur hangar, avait peu d'espoir de mutation. Et donc, c'est un projet dans lequel on est parti de cette contradiction et de cette impossibilité pour essayer d'imaginer quels pouvaient être les tout petits leviers, quels pouvaient être les petites négociations qui, en s'accumulant au fur et à mesure du temps, pourraient débloquer cette sorte de territoire figé et sans proposer une vision qui ferait le blackout sur la situation actuelle en imaginant un futur plus ou moins lointain. On a suivi le récit étape par étape de toutes ces petites négociations. Donc, en ça, c'était assez fondateur, dans le sens où les autres projets, que ce soit des études urbaines auxquelles on a participé à Guyancourt, un projet de concours en République tchèque, à Brno, sur le réaménagement des berges de la Zvratka, qui est une sorte de canal qui a été complètement bétonné et où la question que se posait la municipalité était de savoir comment reconquérir ces berges. Donc, cette attitude de considérer la situation actuelle comme un territoire, une situation à raconter d'abord pour ce qu'elle est, en essayant d'en tirer tous les petits leviers qui peut-être se feront pas simultanément, auront des conséquences différentes, peut-être certaines propositions seront abandonnées au profit d'autres, mais en tout cas cette attitude de en tout cas partir du déjà là et d'imaginer comment tous ces déjà là, même s'ils sont contradictoires, on peut essayer de les emmener un petit peu plus loin et de les faire dialoguer, c'est en tout cas une attitude que on conserve et qui fait le fil entre tous les projets, même si on a travaillé à des échelles très différentes. On s'empêche jamais, quand on commence un projet, d'imaginer que, il y a peut-être une partie du projet où on va se focaliser peut-être juste sur une architecture. Mais en même temps, il y aura une partie de ce projet qui concernera le paysage ou la géographie, et que toutes ces échelles, il faut qu'on avance simultanément. Et pas forcément en essayant de toutes les lier dans un récit hyper cohérent où tout aurait une conséquence sur l'autre, où tout serait imbriqué pour raconter une grande histoire, mais que l'accumulation de toutes ces petites histoires, elles vont réussir à ouvrir des potentialités de transformation.
Ouais. Et donner un fil conducteur peut-être.
Ouais, voilà. Et je pense garder au maximum ouvert la possibilité que une hypothèse échoue et que ça remette pas en question forcément la totalité de l'hypothèse.
Jacques,
moi je pense qu'on essaye de travailler toujours à partir de l'observation d'un territoire. Bon, c'est un peu, en fait, on essaye de chercher plutôt à poser une question quand on commence un projet, plutôt poser une question que forcément répondre à un besoin du site. Et en fait, cette attitude, ça fait qu'on cherche à ouvrir des potentiels de projet, des opportunités qui nous permettent en fait ensuite de dérouler des projets. Et souvent, on se retrouve dans la situation où finalement, on se rend compte qu'il y a plusieurs villes ou plusieurs territoires qui cohabitent au même endroit, qui n'ont pas forcément vocation à tous se rencontrer, à tous fusionner, mais à avancer tous un peu en parallèle et à échanger, à dialoguer à des vitesses différentes. Et donc finalement, souvent aussi, on se retrouve dans des situations où à l'inverse, on a beaucoup trop de propositions de projets et il faut à un moment donné du processus s'arrêter et dire bon, qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est
passer
au choix et puis réduire un peu les possibles de transformation.
Et peut-être un exemple, et puis est-ce que vous êtes passé à des phases de réalisation?
Alors pas vraiment. On a surtout travaillé dans des phases études, donc phase amont. En tout cas, on n'a pas participé à des missions de maîtrise d'œuvre. Donc on a participé à des concours de maîtrise d'œuvre, mais sans jamais passer à l'étape de réalisation. C'est aussi là l'enjeu de cette nouvelle agence, de la création de ce site internet.
Mais on est plutôt des architectes qui dessinent beaucoup, mais qui construisent très très peu.
D'accord. Ça fait partie des raisons qui nous poussent aussi à participer à ce type de concours. Parce que voilà, c'est des questions très ambitieuses. Et c'est vrai, quand on est des jeunes praticiens, c'est rare d'avoir à se confronter à ces questions très ambitieuses sur des grands territoires. Et puis en même temps, d'arriver à concentrer tout ça dans des résolutions architecturales. Là, sur le projet de la Porte du Hainaut, il y avait cette question régionale, mais avec des sites très précis, des questions de réhabilitation et de transformation de typologie de l'habitat minier, d'équipement scolaire. Oui, en tout cas, ce qui nous a poussé à choisir notamment ce site-là, c'était cette possibilité de faire des propositions à une échelle plus architecturale aussi. Et en espérant effectivement que dans ce processus européen qui fait un gros travail pour encourager aussi les municipalités aussi à poursuivre cette démarche à la suite du concours. Donc même si tout ça est hypothétique encore pour le moment, la possibilité que ça nous donne accès à une commande, que ça nous donne accès à de la réalisation, ça faisait partie des arguments, oui.
Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu plus ce projet, justement ?
Alors, donc on a été lauréat du projet Europan 16 sur le site de la Porte du Hainaut, qui avait une particularité dans la question de mener une réflexion à l'échelle du territoire du bassin minier, donc un truc gigantesque, post-industriel, où l'activité est partie, aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO. En parallèle de cette réflexion à l'échelle du bassin minier, se posait la question de quatre petites situations très concrètes, une école, un coron, une frange urbaine,
Et une place de bourg à proximité d'une ligne de tramway.
Et en fait, dans cette distance entre les deux, on s'est dit que là, on pouvait trouver une ouverture pour en même temps interroger l'échelle territoriale et en même temps l'échelle architecturale. Donc, en même temps qu'on cherchait à se poser la question de comment trouver peut-être une cohérence, est-ce qu'on peut trouver une cohérence à l'échelle du territoire aujourd'hui où la mine est partie ? Comment cette nouvelle idée de territoire peut se trouver dans la transformation d'une école. Et en essayant de se faire entrechoquer ces deux logiques, en fait, ça nous a plutôt emmené sur l'idée que le bassin minier était en fait un territoire fragmenté, éclaté en plein de petits morceaux monofonctionnels disparates, qui avaient perdu la cohérence à la totalité. C'est-à-dire que depuis que la mine est partie, la mine a transformé profondément le territoire, créé plein d'infrastructures ferroviaires, autoroutes, créé des morceaux de ville en plein milieu des champs. Mais aujourd'hui, sans cette activité économique, le territoire n'a plus vraiment cette raison d'être. Et comment chaque petit projet peut, sans chercher à forcément recréer une raison d'être globale, en même temps participer à redéfinir une dynamique, une nouvelle histoire
régionale. À l'échelle régionale.
Donc, quand on arrivait à l'échelle de l'architecture, l'école, par exemple, le projet de l'école à Wallers-à-Rambert, on s'est posé la question de savoir comment une architecture, un projet d'architecture pouvait avoir une influence un tout petit peu plus grande que lui-même. Donc, se dire que le bâtiment, il doit interroger juste un peu son environnement élargi. Et en regardant quel était son environnement élargi, en fait, l'école pouvait s'intégrer dans un parc. Donc, on a complètement changer la polarité de l'école en retransformant la limite, en l'intégrant autour d'une mobilité douce qui permettait de relier à une gare, et en dézoomant, en suivant un peu cet effet de dézoom, ça nous interrogeait la forme architecturale et en même temps, ça nous proposait une nouvelle configuration territoriale qu'ensuite on a imaginé répéter dans le territoire pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Et donc on a créé quatre nouvelles, on a appelé ça des nouvelles parce que c'est des petites histoires un peu en décalage de la grande histoire minière, donc quatre petites nouvelles qui, chacune à leur échelle, pouvaient réinterroger cette grande échelle.
Voilà. Un peu un traitement homéopathique du territoire.
Ouais, et toujours, comme on le disait tout à l'heure, avec cette idée que finalement, la transformation et, de cette école issue donc, de cet urbanisme minier n'arrivait pas à son terme, ça ne remettait pas en cause toute l'histoire qu'elle avait pu, en tout cas, commencer à amorcer. Et la même question, on a essayé d'avoir cette attitude sur les quatre sites donc, qui étaient proposés à la réflexion à la Porte du Hainaut, en imaginant que de ces situations locales, on pouvait tirer un enseignement global sans que la question de leur aboutissement en simultané, dupliqué de façon systématique, était une condition. La grande thématique de cette année, c'était les villes vivantes. Et donc, à travers cette forme, on s'est aussi posé cette grande question thématique en se disant, mais Il y a bien sûr la question écologique, économique, sociale liée à ça, mais on a essayé de le lire aussi vraiment dans l'attitude de projet, c'est-à-dire que c'était à partir de l'énergie et de ce qui était vraiment déjà là à l'échelle micro-locale qu'on trouvait important de faire des hypothèses, que ce côté vivant, c'était pas la question de réinjecter un outil de production ou de forcément dépolluer l'entièreté des friches, mais que par tout petit bout, en considérant ces fragments non pas comme une fatalité, mais comme autant de situations qui devaient trouver en elles-mêmes la ressource pour imaginer leur futur, sans être forcément dans une dépendance totale à cette échelle régionale immense. Et que on pouvait avoir des attitudes différentes. Voilà, on voit que du côté, plutôt de l'autre côté du bassin minier, il y a tout un urbanisme plutôt orienté autour de l'infrastructure culturelle qui s'est mis en place. Et donc,
avec le Louvre-Lens.
Voilà, un des modèles aussi dans les projets d'urbanisme et d'architecture des régions minières, c'est notamment la Roure, où il y a eu cette régénération écologique à l'échelle régionale. Donc on est aussi imprégné de tous ces projets. Je ne sais pas, peut-être... Face à l'urgence aujourd'hui, on s'est dit, on n'a peut-être pas le temps d'imaginer ce très très grand récit. Il faut qu'on reparte de là, tout de suite, maintenant.
Finalement, ce n'est pas une question d'épater la galerie avec un très gros projet qui finalement sera bancal à l'arrivée dans sa réalisation. C'est plutôt partir des points existants et que ça fonctionne vraiment.
Voilà.
Mais c'est un peu quand même que les deux soient possibles.
Oui.
Parce que la mission bassin minier, avec son inscription des sites du bassin minier au patrimoine de l'UNESCO, interroge un peu aussi cet patrimoine et a bien conscience qu'il faut en faire un patrimoine vivant. Donc peut-être en couper des morceaux. Enfin, s'interroger sur chaque petit morceau, certains peut-être à couper,
à gommer
et d'autres à amplifier par contre. Donc c'est plus des actions en parallèle et essayer de trouver comment elles peuvent avoir des synergies. Et sachant qu'il y a aussi déjà tout le projet porté par Michel Desvignes de la chaîne des parcs, donc plutôt aussi côté Lens, qui relie en fait tout un tas de friches industrielles pour en faire une sorte de grand parc
régional
un peu à l'héritage Roure. Mais en fait, le bassin minier, c'est une sorte de languette comme ça, de je ne sais plus combien de kilomètres de long, mais dont la chaîne des parcs n'est qu'un petit morceau. Et donc, se pose la question, est-ce qu'il faut définir un périmètre qui doit se prolonger jusque sur l'ensemble du bassin minier avec toujours cette même logique, ou comment on peut aussi mettre en relation ces parcs potentiels, ces grandes friches, mais par des actions locales. Donc, ce n'est pas dire que le parc n'est pas une bonne stratégie,
hypothèse.
Mais c'est qu'on peut y arriver par des petites actions. C'est un peu ça l'idée.
Sans s'interdire de construire.
Non, on est plutôt des architectes qui pensent qu'on peut transformer les territoires, qu'il faut transformer les territoires, que même si le futur n'a pas l'air radieux, et qui ne fait pas trop envie, il faut quand même penser maintenant et comment on peut transformer avec des impacts à court, moyen et long terme, mais en agissant sur les territoires. Donc, on a ces articulations entre les deux échelles, grande échelle et bâtiment, mais bien sûr, on se pose quand même très concrètement la question de comment vont être ces bâtiments et ces interventions à l'échelle architecturale. Donc, on a parlé de l'école qui, en fait, est un tout petit projet. On propose une toute petite action, mais à intégrer plus grande, et qui est, aujourd'hui, c'est des bâtiments posés en limite de parcelles. Et nous, on propose, en fait, de recréer une cour dans laquelle les bâtiments viendraient se greffer, existants, seraient greffés en périphérie, ce qui permettrait, en fait, de retourner l'école sur sa grande emprise. Donc, en fait, c'est un projet où, donc avec une petite échelle d'intervention, il faudrait juste recréer une cour, en quelque sorte. Et après, sur cette cour qu'on avait designée autour de la forme d'une piste d'athlétisme, pour mettre aussi les activités sportives dans la cour, parce qu'il y a toutes ces problématiques d'usage très concrètes. Sur cette piste d'athlétisme est un peu couverte comme une galerie qu'on retrouve, c'est un motif qu'on retrouve dans des écoles assez souvent. Là, on pouvait venir greffer par l'extérieur des salles de classe supplémentaires, des salles sportives, mais qui pourraient donc être ouvertes en même temps pour les activités sportives de la commune, donc mutualiser aussi l'équipement. Donc en inversant, ça faisait cette...
Donc cette école, on comprend qu'elle existe.
Oui.
Voilà. Et donc il s'agit de la...
Réhabiliter.
Voilà, et en tout cas, cette proposition architecturale était orientée vers le fait que, en travaillant d'abord à la reconfiguration de cette cour d'école, la question d'augmenter sa capacité d'accueil, de pouvoir y ajouter des équipements, en fait, était rendue possible par ce nouveau dessin de la cour d'école. Donc, à la fois, ce projet d'architecture amorçait une transformation et laissait ouvert la possibilité d'en amorcer d'autres par la suite aussi. Et donc, j'ai l'impression que cette attitude qu'on peut avoir à l'échelle territoriale, urbaine, on essaye aussi de toujours la transposer à l'échelle architecturale en imaginant que cette forme architecturale, elle est le support de nombreux usages, mais qu'on ne les a pas tous déterminés d'avance et que donc elle doit toujours laisser la possibilité d'en intégrer d'autres ou d'en abandonner certains sans que la logique constructive du projet devienne complètement désuète. Voilà.
Mmh. Oui, donc c'est non figé et un peu offert à l'appropriation et au partage.
Ouais. Voilà. Mmh. Donc ça, c'était une des nouvelles, cette école-là. Une autre nouvelle était plutôt sur la ville tramway. Donc une autre site, c'était Écopont, plutôt au nord-est de Valenciennes. Et où, là, la commune se demandait que faire de la place devant l'église, qui est un peu en retrait de cette nouvelle infrastructure qui est aujourd'hui existante, d'un tramway qui va presque de la Belgique jusqu'à Denain, donc traverse en même temps des champs, enfin une infrastructure assez étonnante. Et on avait cette place un peu en retrait de la station de tramway. Et nous, on s'est dit que la ville tramway, en fait, il fallait trouver une proposition qui s'accroche à ce territoire du tramway. Et donc, on a proposé de proposer des logements, mais plutôt orientés vers les personnes âgées, ou enfin, en quelque sorte, une maison de retraite, qui pourrait donc s'accrocher sur ce tram et utiliser ce côté très accessible et cette desserte. Et en même temps, utiliser tous les équipements associés à la maison de retraite, donc le restaurant, le coiffeur, les endroits d'activité, pour les adresser sur la place. Et donc, on a proposé en fait un bâtiment très simple, avec, comme une sorte de peigne, avec des bâtiments sur cours d'habitat un peu protégés, mais ouverts sur des cours avec des percées visuelles sur la place, et toutes les parties de jour actives de l'autre côté du peigne, directement sur la place. Et donc, en se disant qu'un habitant de Écopont pouvait rentrer dans le restaurant de la maison de retraite sans rentrer complètement dans la maison de retraite, et donc utiliser en fait ce besoin et cette petite proposition pour en même temps réhabiliter la place, enfin réinterroger la place.
En fait, vous recréez du village, c'est un peu ça.
Voilà, ouais. Et on utilise une dynamique de vie qui, elle, peut être portée par un acteur, par exemple la maison de retraite, pour le faire participer à
la fabrique urbaine.
Vous travaillez tous les deux, j'imagine. Vous n'avez pas de salariés encore.
Non.
Bon, ça viendra. alors justement, la grande question, comment imaginez-vous l'avenir ?
Alors,
je dis rien de plus.
Effectivement, le monde de demain comme ça, ça fait pas trop envie. Donc, on essaye de se focaliser sur ici et maintenant. Donc, même si on baigne forcément dans des considérations un peu catastrophistes, notre pratique du projet nous pousse à toujours considérer les potentialités de transformation de notre quotidien, de notre environnement. C'est aussi pour ça qu'on aime toujours, quand on commence un projet, essayer de tordre la réalité pour imaginer le futur. Donc on est très attaché à la littérature de science-fiction, des auteurs comme Ballard, K. Dick, Damasio, Stanislas Lem, un peu plus loin de la science-fiction, Pynchon aussi, ont une grande part dans notre réflexion, en tout cas alimentent notre vision du futur. Mais dans tout cet univers de la littérature de science-fiction, je pense qu'il nous intéresse, c'est le caractère de distorsion du réel, que c'est une représentation qui nous offre une image déformante de notre réel, une sorte de miroir déformant qui nous permet de faire des choix aussi sur peut-être les leviers sur lesquels on peut agir pour éventuellement transformer ce monde de demain. Je dirais qu'on essaye d'avancer sans se forger trop de certitudes sur ce futur et qu'on bricole avec les moyens du bord. Voilà.
Je pense que, comme un peu tout à l'heure on disait qu'on était des bricoleurs, je pense qu'on, même si l'avenir est pas radieux, on essaye de se positionner en disant qu'en tout cas il y a quelque chose à chercher dans le disparate, dans l'hétérogène, un peu dans le morcelé, pour chercher un peu des espaces de transformation possibles. Et en se demandant comment... Donc c'est pas que chacun doit être dans sa dynamique autonome, mais comment aussi ses actions, cette autonomie peut participer d'une transformation un peu plus large et plus commune. Donc on cherche toujours cette... Donc on imagine un avenir, quand même.
Oui.
Sous le signe de plus de commun, voilà, ce serait peut-être ça.
Oui, mais vous êtes une génération plus sensibilisée à ça, donc ça finit par prendre forme, à force de marteler.
Même c'est sûr que nous, on est obligés, on doit considérer aussi notre profession un peu sous le regard du décentrement, de comprendre qu'on s'intègre dans des dynamiques... géographique, vivante, qui aussi dans laquelle nous on n'est qu'une seule partie. Et ça c'est quand même une force assez importante de transformation de nos façons de faire en tant qu'architecte, urbaniste, paysagiste. Et on a l'impression qu'en tout cas l'idée de l'hétérogène et du morceau est une façon de réinterroger notre façon de penser le territoire, pas forcément dans des grands plans globaux qui réorganisent tout, mais plus en réaction avec des dynamiques qui ont déjà cours et dans lesquelles...
Vous pensez que vous pourrez vous opposer justement à ces grands tracés dont des grandes structures s'emparent ?
En tout cas, moi je crois au détournement. Toujours la possibilité de détourner ces grands tracés.
Parce que peut-être, en fait, l'idée c'est peut-être aussi de... Parce que vous avez tous une approche ultra sensible et vertueuse, résiliente, etc. Mais il ne faut pas non plus laisser la grande autorité, on va dire, entre guillemets, s'emparer des sujets. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Donc il faut s'affirmer aussi.
Oui, après, C'est une question complexe.
Oui, c'est une question complexe. En tout cas, vous dessinez remarquablement bien. On vous a un peu sollicité sur des illustrations. C'est très beau ce que vous faites.
Ouais. Alors, c'est souvent l'apport que cette représentation, hors du géométral très classique, qui nous a fait rencontrer d'autres équipes, qui nous a permis de collaborer avec d'autres architectes.
Finalement, vous seriez une porte d'entrée à l'imaginaire, un bâtisseur, une nouvelle porte d'entrée.
J'espère.
Mais en tout cas, c'est sûr qu'on raconte beaucoup d'histoires et qu'à travers le dessin, on cherche vraiment à mettre en place des narrations et à rendre un peu visible un nouvel imaginaire du territoire. Donc, c'est pas qu'un aspect... On veut pas faire des beaux dessins, mais ils doivent permettre à des interlocuteurs, souvent des maîtrises d'ouvrage, aussi non-architectes, et ça, c'est assez important à considérer, à qui on s'adresse. Et, ou un plan, c'est quand même assez complexe.
Aride, oui.
Même pour des architectes, suivre un plan, il faut se plonger dans le projet. Et donc, trouver aussi des formes qui permettent d'intégrer le maximum de personnes dans l'imaginaire du projet pour avoir leur avis, pour continuer à discuter et pas juste avoir une proposition technique. Donc c'est quand même très très important dans notre démarche.
Ouais, je pense que ça fait partie de cette volonté de partage de la discipline et d'ouverture de la discipline à des non-professionnels. On a... Au début de notre pratique, beaucoup travaillé sur des phases, qu'on appelle maintenant des phases de concertation, mais qui sont un moment où le projet est amené à s'ouvrir, à être communiqué sous des formes non réglementaires, on va dire. Et cette question de la représentation, de l'illustration, entre guillemets, elle joue un rôle assez important parce que, elle permet de traduire cette espèce de langue étrangère qu'on parle entre architectes, quoi. Donc, c'est un enjeu, je pense, assez important, cette ouverture de la discipline à des non-praticiens, des non-spécialistes.
Et je pense qu'on est très intéressé par aussi ces limites un peu disciplinaires, d'interroger l'architecture un peu par le biais, la prendre un peu de biais, et d'aller voir dans la bande dessinée, dans la littérature, là avec par exemple Europa, on a fait des nouvelles, le jeu, des démarches artistiques, mais de pas forcément traîner que dans notre discipline. Et on pense que ça permet de trouver des nouvelles associations, des rencontres un peu fortuites qui vont interroger en profondeur les façons de faire le projet.
Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ?
Alors, testez toutes vos idées. dessinez, redessinez, dessinez encore. Extériorisez toutes les intuitions qu'on peut avoir avant de les annuler, avant de décider qu'elles sont mauvaises. Suivre les indices et faire confiance à ses intuitions. Et surtout, ne pas avoir peur... des contradictions, En tout cas, pour nous, c'est souvent là que réside le projet.
Oui. Un mot de la fin ?
Au futur.
Oui, on va s'accrocher, là.
Ouais. Hein ?
Voilà.
Non, mais en tout cas, la petite histoire, un peu le mode mineur... Il y avait cette question de ne pas laisser les grands tracés, mais pas se mettre à la place du grand ordonnateur non plus. Et donc, rester un peu dans ce mode petit, on essaye des choses, ça ne marche pas, mais ça réouvre une autre porte qu'on n'avait pas imaginée. Mm-hmm. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire comme pratique d'architecture.
D'accord. C'est ce qui vous caractérise.
Voilà.
Le mode mineur.
Qui est très agréable à écouter. Merci beaucoup.
Merci
pour votre témoignage. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas votre numéro en anglais mercredi. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.